Vendredi dernier, je jasais avec le chum Tom Perrin. Je disais, il y a un Grand Prix en fin de semaine. Il dit, ouais, la Chine. C'est un retour en plus en Chine. Je dis, OK, on s'en parle-tu lundi dans le show? Il dit, oui, parce que si Max Verstappen gagne, il y a de quoi de fun à raconter. Évidemment, si Max Verstappen ne gagne pas, il y a de quoi le fun à raconter aussi. Ça a été une victoire, Tom Perrin, pour Max Verstappen en fin de semaine.
Ouais, ouais, on sent que Red Bull reste dominant, mais de moins en moins. On sent qu'il y a d'autres écuries qui arrivent à les titiller. Mais la stat folle, c'est que le dernier Grand Prix de Chine était en 2019. C'était le troisième Grand Prix de la saison. Max Verstappen avait à ce moment-là 5 victoires dans sa carrière. Maintenant, il en a 58, donc il en a eu 53 dans les 5 dernières années sur 106 Grands Prix. Il a donc gagné 50% des Grands Prix des 5 dernières années. Je trouve ça phénoménal.
Hey, 50% des Grands Prix des 5 dernières années. Si ça, c'est pas une domination, dans le dictionnaire, à côté de domination, là.
On va mettre Max Verstappen.
La définition devrait être Max Verstappen.
Puis la tristesse là-dedans, c'est que 2019-2020, 2020 est complètement dominé par Mercedes. Donc il y a beaucoup de wins à Lewis Hamilton là-dedans.
C'est vrai.
2019, ça doit se battre entre Lewis et Vettel. Mais sinon, en dehors de ça, c'est clairement des dominations qu'on vit en ce moment en F1. C'est l'ère de la F1 en ce moment. Mais gros Grand Prix, surtout qu'en plus, on a McLaren qui arrive à mettre Norris sur le podium en deuxième position. Même s'il avait volé la casquette de troisième position, il était bien deuxième. Donc ça fait du bien de voir ça. Et alors c'est sûr que c'était moins un circuit pour Ferrari, mais on s'attend à ce que Ferrari revienne fort pour les prochains Grands Prix quand même. Là, il y a d'autres choses qui s'en viennent.
Norris est rendu à 8 deuxième position en carrière. Jamais de gain dans un Grand Prix. Il va l'avoir méritant à tabarouette son Grand Prix.
Si, là. Et là, on commence à parler d'une curse.
Lui.
Ah, oui. Là, on commence à parler de est-ce qu'il va être capable d'en avoir une. On en connaît pas mal des pilotes comme ça qui ont réussi à leader des Grands Prix sans jamais être vainqueur. On pense à Hülkenberg qui a même jamais eu de podium, si je me trompe pas, alors que pourtant il a plus de 250 Grands Prix en F1. Il commence à être dans ses statistiques du nombre de Grands Prix versus toujours pas gagné, alors qu'on est dans une team qui pourrait nous le permettre. Daniel Ricciardo avait gagné avec McLaren en 2022, si je ne me trompe pas. Donc, on sent que c'est possible, ça s'en vient. En 2022, il était super positif en se disant « ça va s'en venir pour moi plus tard ». Là, ça commence à faire long, puis je pense qu'il commence à avoir faim. Ouais.
Mais tu vois la différence aussi dans une carrière, quand tu es dans le sport, là, on parle de Formule 1, mais ça pourrait être le tennis, mettons. Quand tu peux être bon, tu peux être excellent, mais si tu es dans l'air ou la période de ta carrière où tu as du monde dominant, voir Lewis Hamilton, voir Max Verstappen,
oui,
c'est tough de gagner. Je faisais le parallèle avec le tennis parce que quand il y avait Nadal, Federer, puis
Djokovic,
ben bonne chance, même si t'es bon, bonne chance de gagner un tournoi là, quand t'as le top 3. Là.
Par Andy Murray. Ouais, il a réussi à se faufiler à Wimbledon, mais à part de ça, ça a été tough.
Ouais. Ben, on peut faire le parallèle avec plein de sports. Tu sais, au hockey, si tu jouais dans les grosses années de Gretzky, oublie ça, être le meilleur pointeur de la saison régulière, là, t'as aucune chance. Tu peux peut-être être deuxième, mais oublie ça, le premier.
Parlons-en, Peter Stastny, deuxième meilleur marqueur de la NHL dans les années 80. C'est lui qui a le plus de points après Gretzky. On a parlé à Québec de Peter, là, mais le reste, on n'en parlait pas même à travers la Ligue nationale.
Ça ressemble à quoi la piste? C'est quel genre de piste? Quel genre de Grand Prix que c'est en Chine?
C'est une piste un peu tortueuse, donc avec des virages très serrés, avec même... Alors ça, par contre, c'est le fun. On commence à revoir ça. Moi, j'aime ça. C'est un côté un peu à l'ancienne en F1. C'est des longs virages rapide où on arrive à voir des dépassements là-dedans. On a vu quelques longs virages où on arrive à voir des dépassements sur l'extérieur. C'est sûr qu'à chaque coup, c'est différence de pneus, parce qu'on a un pneu soft versus un médium. Le pneu soft colle beaucoup plus à la piste, donc on est capable d'aller le chercher. Mais ça reste de magnifiques dépassements. Fallait que je parle de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui a encore fait parler de lui pendant ce Grand Prix.
C'est le japonais?
Non, okay. non, il était bien correct, Yuki. Okay. Le problème, c'est notre ami Lance Stroll.
Oh, ben oui! Et là, provoqué un accident.
Il a provoqué un accident.
Mais il y avait quelque chose de positif avant ça. Là. Attends, juste avant qu'on embarque dans ce qu'il a fait pendant la course, il n'avait pas bien réussi les essais. J'avais pas vu un titre passer que Lance Stroll avait...
C'est possible, oui, dans les essais, il s'était pas trop mal classé.
Ouais.
Mais dès que ça compte, il est pas bon.
Okay, ben c'est ça.
J'exagère un peu le trait, mais le problème, en fait, c'est que... Alors déjà, il provoque un accident... pour de vrai, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre quand même, vu les circonstances. Mais le problème, c'est qu'il rejette la faute sur la personne de devant, qui est Daniel Ricciardo, qui, lui, est obligé de retirer sa voiture au 33e tour à cause de l'accident, à cause des dégâts qui sont faits à l'arrière de sa voiture. Daniel Ricciardo, c'est quelqu'un de plutôt souriant, de plutôt joyeux. Là, ça le faisait vraiment pas rire. C'est la première fois que je le voyais énervé comme ça. Si on regarde un petit peu comment ça s'est passé, on est sous voiture de sécurité. Et donc, tout le monde freine très fort quand on arrive dans les virages, ce qui est normal. Et ça fait cet effet accordéon où mais on se rapproche très très proche quand on arrive dans les virages. À ce moment-là, Lance Stroll ne fait pas bien attention à devant lui et regarde ce qu'on appelle la corde du virage. Donc vraiment le virage en tant que tel, au lieu de regarder devant lui, à ce moment-là, il relâche les freins et donc il finit dans le derrière de Daniel Ricciardo tout en disant « Oh, il m'a freiné dans la face ». Daniel Ricciardo est obligé de se retirer et quand, en plus, c'est un média français qui lui apprend, c'est Canal+, qui lui dit « Il a dit que c'était de votre faute ». Daniel Ricciardo, mais il dit « Ah, c'est dommage, je commençais à me calmer, ça vient de me remettre en forme. » Et il a clairement, je pense qu'il a lâché un petit « fuck him » ou de quoi de même. Okay. Là, on sentait qu'il était énervé. Et d'ailleurs, Canal+ lui a montré les images avec le texte radio. Je pense que ça l'a remis bien en forme pour le reste des entrevues qu'il avait à faire dans les médias. Là. Non, c'était quelque chose.
Ok. Ça va pas bien cette saison-là pour l'instant. Mais ça va pas bien depuis quelques années pour l'instant.
Oui, et puis aussi Daniel Ricciardo qui s'énerve, c'est parce que sa saison va vraiment pas bien.
Ouais.
Lui, de son côté, on sent qu'il a du mal à être aussi performant que ce qu'on pensait. Racing Bulls n'est pas aussi performant que ce qu'on pensait parce qu'on s'attendait à ce qu'ils aient une Red Bull de l'année dernière, donc qu'ils soient complètement dominants dans le milieu de peloton, ce qui n'est pas tant le cas. À côté, il y a Yuki Tsunoda qui fait un très très bon travail et qui arrive à même être meilleur que Daniel Ricciardo, alors que Daniel Ricciardo a 5 ou 6 ans d'expérience de F1 de plus. Donc il est dans une période compliquée et là on ne sait pas ce que ça va devenir de sa carrière. Donc compliqué pour lui.
On parle du coéquipier de Lance Stroll, Fernando Alonso, qui a terminé 7e. Autant Stroll a des mauvais résultats, autant Alonso est hyper constant chaque Grand Prix.
Presque, en fait, en fin de semaine, c'est un mauvais résultat pour lui, tellement il est bon ces derniers temps. Il arrive à faire, et puis c'est ce que j'appelle le facteur Alonso, c'est qu'il arrive à avoir une voiture et à toujours être un peu au-dessus de ce que là où la voiture devrait être. Et c'est là où ça fait gros contraste avec Lance Stroll, qui lui est à peu près où la voiture doit être, voire même des fois en dessous en fonction des Grands Prix, ce qui fait que ça fait un écart qui est monumental. Quand on regarde en qualification, je pense que Fernando Alonso met 8 dixièmes à Lance Stroll, ce qui est énorme. C'est énorme. Alors, on sait que normalement, Fernando Alonso a des améliorations qu'a peut-être pas Lance Stroll, mais on ne peut pas mettre 8 dixièmes sur des améliorations. On peut en mettre 2, 3, gros max. Le reste, c'est le pilotage, c'est l'homme derrière la machine. Et on sait que des circuits compliqués comme celui de Chine, l'expérience joue aussi. Et le fait que Fernando Alonso, pour de vrai, il est rentré en F1 l'année où Max est né. C'est phénoménal comme statistique. Il est rentré en F1 en 2001. Moi, j'avais même pas un an quand il a commencé la F1. C'est phénoménal. Donc, c'est sûr qu'il a une expérience à toute épreuve. Donc, le contraste fait vraiment du mal à Lance Stroll.
Ça rajeunit pas personne. Moi, je suis rentré à Musique Plus avant que Max soit né. Fait que ça en dit long sur mon âge et ma carrière. C'est quoi, Tom Perrin, la suite des choses pour la saison de Formule 1?
La suite des choses, c'est Miami. Et là, ça m'intéresse parce qu'on est sur un circuit avec vraiment de la vitesse et on sait que ça va à Ferrari. Fait que j'espère qu'il va se passer quelque chose. On sait que Sainz avait été fort, si je me trompe pas, l'année dernière à Miami. Fait que on a peut-être un espoir. Je sais que je le dis souvent, mais j'aime garder espoir parce que cette année, on sent que Red Bull, la machine est moins huilée que les 2-3 dernières années. On sent que c'est un peu plus compliqué, qu'il y a quelques petites erreurs. La voiture ne fonctionne pas dans toutes les circonstances. Donc, c'est là où il faut en profiter. Et Ferrari a la voiture cette année pour en profiter. Et en plus de ça, Fred Vasseur, le boss de chez Ferrari, nous racontait qu'il travaille très, très activement à l'usine, jour et nuit, sur des améliorations. Donc, on se dit que plus la saison va avancer, plus on va avoir quelque chose. Et surtout que cette année 2025, l'année prochaine, qui est la dernière de la réglementation, on aura vraiment la convergence et on aura vraiment quelque chose. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour l'année prochaine qui va être le fun si c'est pas en fin de saison.
Puis Miami, c'est dans 2 semaines?
Dans 2 semaines.
Ok,
si
2 semaines.
Pas, ouais.
Parfait.
Tu regarderas ça, Red, c'est de toute beauté.
Ah oui, je me souviens l'année dernière.
Ah, ouais, avec le stade de football en arrière-plan, là, c'est extraordinaire.
Il n'y avait pas un... C'est à Miami, il y avait un bateau dans le milieu de...
Il y a un bateau au milieu, puis si je ne me trompe pas, ils avaient mis un DJ pour faire l'entrée des pilotes.
Oui.
Puis on voyait que les pilotes n'avaient vraiment pas le goût d'être là. C'était Will.i.am, je crois, qui était là, qui faisait comme faux chef d'orchestre.
Miami.
Et tous les pilotes étaient tannés, ils voulaient juste se concentrer sur le début de leur Grand Prix.
C'est vraiment pas des lutteurs de la WWE.
Non, c'est vraiment pas le même délire.
Tout le contraire. C'est comme, non, nous autres, on veut pas se prêter au jeu. On peut juste embarquer dans le bolide puis rouler. Tom Perrin, toujours un plaisir. Merci d'être passé nous voir pour nous jaser Formule 1.
Mais grand plaisir.
Sam and the Terrible News, le stéréo, à Rage Against the Matin. Cool.